La Réserve fédérale américaine ne prévoit pas de hausse de taux pour 2019, Pierre-Yves.
Ça fait du bien, Paul. J'ai comme un soupir de soulagement parce que le Canada, on est des suiveurs depuis des décennies. Et puis là, on avait un petit écart. Tu sais, on était à 1,75, notre taux directeur, les Américains 2,5. Et là, au Canada, on avait fait une petite pause, un essoufflement, et on se disait, bon, qu'est-ce que feront les Américains? Et finalement, les Américains, voyant que l'inflation était pas si pire, voyant que les données étaient pas en ébullition, on a dit, on pense que cette année, on va prendre une petite pause. Et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde qui a négocié son taux hypothécaire variable, qui ont des prêts variables sur des marges de crédit et sur des prêts personnels. Nous avons potentiellement, en Amérique du Nord, une pause. On dit potentiellement, peut-être que le Canada va rattraper les États-Unis, qu'on va décider de faire des hausses de 25 points de base prochainement, mais ne pas se faire distancer par les Américains, c'est une bonne nouvelle.
Alors, cet après-midi, le ministre des Transports, François Bonnardel, a déposé son projet de loi 17 pour la réforme du taxi. Dans son projet de loi, Québec, notamment, met fin au quota de permis de taxi, qui était jusqu'à maintenant imposé par des agglomérations, par des territoires à travers la province, et pour compenser aussi, Pierre-Yves, la perte de valeur là, des 7500 permis de chauffeurs de taxi avec l'arrivée d'Uber, ben, Québec va verser 250 millions. Ajouté donc aux 250 millions qui avaient déjà été versés en 2018.
Imagine-toi, là, tes chauffeurs de taxi propriétaires là, dans le moment, puis tu comprends la game, tu comprends que c'est de l'offre et la demande, tu comprends que le monde a changé, mais tu as un prêt avec la caisse sur ton permis de taxi que tu as payé, mettons, 100 000.
Ou 200 000, même dans certains cas.
Ou 200 même dans certains cas. Il te reste de l'argent à payer dessus. Et tu te dis, hey, en plus de ne pas avoir l'argent équivalent potentiellement à mon permis, je vais pas récupérer ma valeur plus l'indexation au coût de la vie, plus le gain. Donc, je sais que c'est un marché secondaire, mais Uber a gagné. Uber est arrivé avec ses gros sabots. L'industrie du partage, entre guillemets, partage mercantile est arrivée. Et puis, on a réussi à dire, avec les clients, ben ça n'a pas de sens qu'aujourd'hui, ce soit une autre façon de faire. Alors, dans le moment, je ne sais pas comment on va répartir les 250 millions anciens et les 250 millions nouveaux et à qui on va les donner et combien, mais il y en a qui vont manger certaines pertes et qui ne pourront pas revendre leur retraite et leur capital de retraite. Et c'est dommage, mais c'est un marché secondaire, tout comme les quotas. Hein. Les quotas en agriculture, c'est la même chose. Quand on limite l'offre, on crée automatiquement un marché secondaire qui se revend. C'est comme les chalets. Il y a des chalets de la Couronne au Québec qui sont loués par des gens pour quelques centaines de dollars, mais qui valent des dizaines de milliers de dollars en cash et on s'échange ça parce que on a créé une limite, on a créé un droit et un droit se revend. Et là, l'autre question, c'est ce qui est spécial, c'est qu'on nous dit, Paul, il va y avoir le tarif réglementé. Pour quand tu vas te faire appeler par téléphone ou par le dispatch en bon français habituel, ou quand tu vas te faire hailer sur la rue, donc tu vas avoir l'espèce de 3,50$ au départ, 1,75$ du kilomètre en roulant et 65 cents par minute d'attente. Mais si le même client t'avait appelé par une application, là, ce serait un tarif en fonction de l'offre et la demande modulé en fonction de l'heure de la journée. Alors là, je comprends le point de vue qu'on veut comme sauver les toutes, là, mais quand on y pense, dépendant de comment t'appelles ton taxi, dépendant de comment t'interpelles ton chauffeur, t'auras pas le même tarif. Voyons donc.
Oui.
La personne fait exactement le même service. Peut-être qu'elle va être dans un taxi, mais si elle utilise son application au lieu du dispatch de la compagnie de taxi, elle va pas être payée de la même façon. La même personne avec la même formation. Qu'est-ce que c'est ça? C'est comme si j'arrive chez McDo, puis là, je dis, bon, je vais te prendre un Big Mac puis une frite au comptoir. Puis là, la personne t'a dit, ben, c'est 7 piastres. Parfait. Je me retourne de bord, je m'en vais sur l'iPad, puis là, c'est 9 piastres. Qu'est-ce que c'est ça, Paul?
Et non seulement ça, c'est que les chauffeurs de taxi, ce qu'on appelle les chauffeurs traditionnels, vont être obligés de continuer d'appliquer les tarifs de la Commission des transports du Québec.
C'est-à-dire, seulement quand ils vont être appelés, aller sur la rue
ou par téléphone.
Ah,
donc tu vas être pénalisé si tu passes par l'application.
Alors, t'étais ton application, puis là, tu vois tes chauffeurs de taxi, puis là, tu es en heure de pointe. T'as quelqu'un qui t'aide le taxi ou t'as l'application? Là, tu te dis, hey, je regarde la course, là, je vais prendre l'application. Donc, quel genre de gestion ça va devenir? Tu sais, je comprends la déréglementation, puis l'application, puis Uber, puis les applications qui vont beaucoup mieux, puis les retards, puis le suivi, puis ça. Je comprends le côté pratique pour le client. Mais il y a quelque chose en moi qui, économiquement, dit, c'est comme changer du jour au lendemain les règles du jeu. On aurait dû faire ça il y a quelques années. On aurait dû voir en avant. Mais on a manqué de couilles au gouvernement. Et là, on agit, mais... Et là, Paul, et là, qu'il y a des gens qui vont pleurer ce soir en se disant, Moi, là, j'ai payé un permis 150 000.
Ben oui.
Est-ce qu'on va me donner? Comment on va les dédommager? Qui va avoir la priorité sur l'argent? Comment ça va être? On va-tu leur donner un rendement? Mais en même temps, ils ont acheté un quota sur un marché secondaire. C'est vraiment complexe.
On va parler maintenant du troisième volet de nos finances personnelles, notamment lorsqu'il y a une voiture d'entreprise.
Ah oui, Paul. Tu sais, hier, avec la voiture électrique, les gens sont arrivés et ont dit « Ah, moi, je vais prendre une voiture électrique par l'entreprise, puis là, je vais l'utiliser ou je vais m'acheter une voiture électrique puis je vais louer l'entreprise. » Et là, j'ai sorti mon petit côté comptable et je me suis dit « Comment ça marche quand on utilise une entreprise pour fin d'affaires? » Une auto pour fin d'affaires. Okay? Et là, je suis allé voir les avantages imposables. Quand on a une auto fournie par l'employeur, mais qu'on se sert à des fins personnelles, on a deux avantages. On a l'avantage pour le droit d'usage, puis un avantage pour les frais de fonctionnement. Donc, en fonction du kilométrage personnel qu'on utilise, plus la voiture vaut cher, plus on a un avantage imposable. Et d'un autre côté, quand on utilise sa propre voiture et qu'on facture l'entreprise pour le kilomètre parcouru, on peut charger 58 cents pour les premiers 5000 km et 52 cents du kilomètre pour les suivants. Alors, la morale de l'histoire, si vous voulez être un homo economicus dans le sens le plus optimal du terme, vous achetez, même si vous êtes représentant que vous faites du kilométrage, de vieilles voitures, des voitures qui coûtent rien ou qui sont usagées. Vous les brûlez et vous chargez le kilométrage à votre employeur. Le kilométrage n'étant pas imposable et n'étant pas variable en fonction du modèle de voiture quand c'est vous qui chargez, bien vous êtes bien mieux d'avoir une voiture qui ne coûte rien à rouler puis rien à l'achat, mais vous pouvez charger quand même 58 cents pour le premier 5000 km du kilomètre. Donc, pense-y, tu achètes une voiture cash 5000 $, tu roules pour fin d'affaires pour ton employeur te rembourse 58 cents. Ben, tu sais, au bout de 2500 kilomètres, t'as payé ta voiture.
Bien sûr. Le calcul est là.
Le calcul est là. Donc, je connais des vendeurs ou des représentants, ce qu'ils faisaient. Ils achetaient des voitures usagées de 4, 5, 6, 7, 8 ans. Ils les brûlaient. Ils en prenaient deux par année, mais ils faisaient de l'argent non imposable en chargeant du kilométrage par rapport à l'autre voisin d'à côté qui prenait une voiture fournie par l'employeur à 30 000, 35 000 et qui, lui, payait un avantage imposable beaucoup plus
grand. Effrayant. Effrayant. Non, mais il n'y a pas de comparaison. Bravo de l'avoir souligné.
Bien, on en parlera avec les représentants la prochaine fois.
Merci, Pierre.
Salut, Paul.